Cube Radio. Acteur de changement, il est tourné vers l'innovation. Il ne se contente jamais de peu. Il pousse l'information dans les moindres détails. Guillaume Lavoie.
Bonjour, bienvenue à Cube Radio, Guillaume Lavoie avec vous, merci beaucoup d'être à l'antenne. Beaucoup de choses aujourd'hui évidemment, mais revenons et repensons au débat sur les GES, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on devrait faire pour avoir un meilleur bilan environnemental, comment on fait pour réduire les gaz à effet de serre. Et avant de se poser la question de combien est-ce qu'on devrait les baisser, de qu'est-ce qu'on devrait faire pour les réduire, la véritable question est de se dire, est-ce qu'on pose la question dans le bon cadre? Et là, je vais vous parler du périmètre comptable des GES. Est-ce qu'on calcule les gaz à effet de serre que l'on produit ici au Québec ou est-ce qu'on calcule les gaz à effet de serre sur un environnement plus vaste, planétaire ou à tout le moins continental? Et parce que tous les GES ne sont pas égaux entre eux. Réduire les GES au début du processus, c'est relativement peu coûteux, c'est même plus facile. Et plus on avance dans le processus, eh bien, plus ça coûte cher, plus c'est compliqué, plus ça peut devenir même incompatible avec nos structures sociales ou économiques. Et il y a un piège rhétorique dans le bilan québécois, c'est-à-dire de réfléchir uniquement sur une base québécoise, et je le partage avec vous. Par exemple, deux types de pièges. À droite, souvent, on va attendre une espèce de mirage, ce que j'appelle le mirage des paresseux ou des négationnistes, c'est-à-dire, bon, le Québec, ça pèse pas pour grand-chose, de toute façon, c'est pas grave, c'est surtout ailleurs que ça se passe, donc presque une excuse sur mesure pour ne rien faire. À gauche, c'est le mirage des hyperlocalistes, c'est-à-dire que sous le couvert d'un agenda de décroissance qu'on dévoile jamais vraiment, on campe l'enjeu que la seule comptabilité qui compte, c'est au niveau local. Et donc, c'est ici où il faut finir par fermer, mettre la clé sous la porte d'industries plus polluantes, notamment, par exemple, le secteur de l'aluminium. Et ces deux mirages-là nous amènent dans un mur. Alors, comment est-ce qu'on peut le penser différemment? Mais la destinée du Québec, c'est d'enlever des GES grâce à son énergie propre, pas seulement ici, ce serait réducteur de le penser comme ça, mais aussi à l'échelle canadienne, en Ontario, dans les Maritimes, même continentale, en pensant au nord-est des États-Unis et même un peu plus. On peut penser à la Rust Belt, par exemple. Notre destinée, elle est continentale. Il faut penser l'expansion de notre capacité énergétique, pas en fonction de nos besoins. À chaque fois, est-ce qu'on devrait faire un barrage de plus ou pas? On se dit quels sont les besoins d'Hydro-Québec. C'est réducteur de le penser comme ça. C'est pas nos besoins et nos émissions qui devraient guider notre conversation, notre réflexion, mais plutôt quels sont les besoins du continent auquel on appartient et quels sont les gaz à effet de serre que l'on peut réduire à l'échelle continentale. Et recadrer ce débat énergétique, environnemental, industriel, même à la limite d'ambition de positionnement du Québec dans son continent, c'est quelque chose qui peut représenter véritablement une nouvelle pensée de la contribution québécoise pour les défis auxquels on va faire face. Alors, cette pensée nord-américaine, elle doit s'incarner parce qu'à droite, on manque de vision ou à gauche, on joue le confort de l'insignifiance en imaginant un débat GES uniquement au Québec. Ce qu'on propose ici ou ce qui devrait nous animer, c'est le Québec avec une échelle continentale, une véritable ambition digne de notre meilleur potentiel puis probablement à la hauteur des défis qui se présentent à notre siècle.
Avec Guillaume Lavoie, pas de détour. Seulement un lien direct vers des solutions logiques.
Il y a eu ce rapport par la vérificatrice générale du Canada à savoir quelle est la capacité canadienne d'intervenir, soit de patrouiller, d'assurer la sécurité, de savoir qu'est-ce qui se passe dans le Grand Nord canadien, dans l'Arctique. On dit souvent en anglais que le Canada, c'est coast to coast to coast. Bon, mais la côte du Nord, elle est gigantesque et vaste. Et si on se réclame quelque part d'une certaine fierté d'être une grande nation du Nord, d'avoir ce que le Père Noël et le Pôle Nord soient au Canada, eh bien, ça vient avec une certaine obligation. Et le rapport de vérificatrice générale nous laisse penser qu'on n'est absolument pas à la hauteur. Pour faire un peu le portrait de la situation actuelle et des défis qui se posent à nous, retrouvons Stéphane Roussel, qui est professeur titulaire à mon alma mater, à l'École nationale d'administration publique. Bonjour, M. Roussel.
Bonjour, M. Lavoie. Content de vous retrouver.
Également, merci d'être avec nous. Alors, faites-nous un peu le portrait d'abord des grandes lignes du rapport de la vérificatrice générale.
Ce qu'elle constate, c'est que toutes les ressources dont dispose le Canada pour surveiller cette immense, vous l'avez dit, là, c'est 4 millions de kilomètres carrés, l'Arctique canadien. Donc, tous les instruments ou tous les moyens qu'on a de surveiller ce territoire-là arrivent presque au bout de leur vie utile. Qu'on parle des satellites, qu'on parle des brise-glaces, qu'on parle des avions de surveillance, même aussi les infrastructures qu'on a pour soutenir cette panoplie-là, arrivent au bout de leur vie utile et il faut les remplacer. Et le problème, c'est que ce qu'elle constate, c'est qu'il risque fortement d'avoir un délai entre le moment où ces instruments-là vont arriver, vont être obsolètes, et leur remplacement. Donc, on risque d'avoir dans quelques années ou avoir même un trou de 10 ans dans le remplacement de ces équipements-là.
Et là, c'est assez terrible, mais juste pour prendre, par quelle manière est-ce que la vérificatrice générale en parle, ou quel serait votre avis, par quelle manière on devrait envisager la patrouille de l'Arctique, notre présence dans l'Arctique? Est-ce que c'est parce qu'il faut savoir ce qui se passe? Ça nous prend des yeux, ça prend des oreilles, ça prend aussi des bottes, comme on dirait en anglais, des bottes sur le terrain. Est-ce qu'on devrait le faire par l'espace, les satellites, ou plutôt une stratégie maritime, par des navires, ou sinon une stratégie aérienne, ou sinon ça nous prend les trois?
D'abord, là, pour répondre à la première partie de votre question, il faut absolument être capable de savoir ce qui se passe. On peut pas agir si on n'a pas une connaissance claire de ce qui se passe. Par exemple, s'il y a des navires qui rentrent dans les eaux canadiennes sans s'identifier, qui peuvent présenter un risque environnemental ou un risque de criminalité ou des choses comme ça, il faut être au courant. Mais pour ce qui est des moyens d'assurer le respect des lois canadiennes dans l'Arctique, il faut effectivement les trois, c'est-à-dire on a besoin non seulement de satellites, mais de navires, on a besoin d'avions de patrouille, éventuellement d'avions d'interception, et on a besoin aussi, dans des cas extrêmes, de pouvoir déployer des forces, des ressources terrestres là-bas, si par exemple il arrive une catastrophe dans une communauté nordique ou une catastrophe environnementale, il faut avoir la capacité de déplacer des gens là-bas. Donc c'est très complexe et surtout c'est extrêmement coûteux. En fait, c'est le problème du gouvernement, c'est que ça coûte une fortune tous ces équipements-là et ces infrastructures-là.
Oui, à cette antenne, des fois, je dis souvent que ça manque de fédéralistes à Ottawa parce qu'il y a des responsabilités éminemment fédérales qui ont besoin davantage d'attention. Professeur Roussel, dites-nous, est-ce qu'on n'est pas un peu coupable presque de naïveté parce qu'il se développe, et c'est pas juste les sous-marins, le russe ou autre, laissons de côté les films de Tom Clancy, ne serait-ce qu'un instant, mais il se développe à travers le passage du Nord-Ouest, mais la Chine et la Russie construisent de nombreux brise-glaces et même des cargos, des porte-conteneurs doublés de brise-glaces. Est-ce que si on veut véritablement se réclamer de la souveraineté du Nord, ce qui serait normalement dans notre droit, mais ça vient avec des responsabilités, est-ce qu'on n'est pas ici en train de se faire damer le pion par la force des choses? Les autres se préparent et il y a un peu de sommeil là, du côté canadien.
Ouais, je vous dirais, je suis plus optimiste là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, à terme, on peut percevoir le fait que la Chine... La Russie est déjà très en avance dans la dotation d'équipement, que voir aussi que la Chine s'équipe de brise-glace, qui est un peu curieux parce que la Chine est quand même n'est pas une puissance arctique. Mais c'est peut-être pas là-dessus qu'il faut mettre la priorité. Vous parlez de souveraineté. Souveraineté, pour moi, c'est d'abord avant tout la capacité du gouvernement de faire appliquer ses lois sur son territoire, sur l'ensemble de son territoire, et de donner aux citoyens les services donc de protection, d'assistance dont ils ont besoin. Et ce dont on parle actuellement, en fait, quand on parle de brise-glace ou on parle d'avions ou de ressources humaines qu'on déploierait sur le terrain, c'est d'abord et avant tout, pour moi, une question de donner des services aux citoyens. Par exemple, on parlait d'un désastre environnemental, mais ça peut être une catastrophe aérienne, comme ça c'est malheureusement déjà produit. Ça peut être aussi des activités criminelles, ça peut être d'aller faire de la recherche et sauvetage.
Il y a des populations là au nord, là, ce n'est pas que des vastes étendues de neige et de glace. Resolute Bay, il y a tout l'entourage de la baie du Tson. On pourrait même aller encore plus loin au nord. Peut-être, il faudrait même le réfléchir en termes d'infrastructure. Est-ce qu'on a des ports en eau profonde qui sont correctement installés? Est-ce que juste la base militaire d'alerte, ce sera pas assez? Ça va en prendre plus?
Ah non, non. Oh, beaucoup. En fait, on n'a pas de port en eau profonde. En fait, il y en a un qui est en construction depuis 10 ans, puis qu'on a dû réduire en fait de taille et tout ça, qui est toujours pas en service. Mais effectivement, vous pensez aux communautés du Nord, c'est, je pense, ça qui est important dans la mesure où, vous savez, c'est pas une menace lointaine et théorique, c'est quelque chose de concret et actuel, c'est-à-dire de pouvoir faire donner des services à ces communautés-là et de veiller aussi à ce qu'elles soient en sécurité, surtout avec les changements climatiques qui sont en train de bouleverser leur environnement. Mais il faut être capable de, comme le gouvernement canadien doit être capable de donner des services à ces gens-là. Et pour ça, c'est pour ça, à mon avis, la première raison pour laquelle on a besoin de ces ressources-là. Et en montrant sa présence sur le terrain, en donnant ces services-là, en assurant le respect des lois, ben le gouvernement canadien affirme sa souveraineté beaucoup plus que par d'autres moyens.
Vous nous ramenez peut-être à l'essence même de la souveraineté, qui, au-delà de faire valser les drapeaux, est d'être capable de livrer des services là où, supposément, on en a la juridiction. Stéphane Roussel, professeur titulaire à l'École nationale d'administration publique, merci beaucoup.
Merci de l'invitation. À la prochaine. Au revoir.
Au plaisir.
Grand vulgarisateur, Guillaume Lavoie analyse le monde. Analyse le monde dans tous ses états.
Intéressons-nous à la vie nationale avec Philippe Lorange. Bonjour, Philippe.
Bonjour.
Alors, est-ce que pour être capable d'accueillir les employés chez Hydro-Québec, est-ce que je devrais dire ni hao? Est-ce que je peux parler chinois maintenant? Alors, ça a l'air de. D'abord, toute l'histoire de l'espion chez Hydro-Québec. Ça jette aux poubelles tous les films de James Bond complets, là, hein? Quelqu'un de très athlétique, raffiné et tout. En tout cas, sur la première page du journal, ça avait pas l'air de ça du tout. Mais comment c'est possible que quelqu'un qui s'exprime à peine en français et difficilement en anglais travaillait chez Hydro?
C'est une très bonne question, en fait, que je me suis posée, que d'autres se sont posées. Parce que Hydro-Québec, l'une des premières conditions pour être embauché, c'est de savoir parler français, d'avoir une connaissance du français. Puis là, on a su dans les journaux que, bon, finalement, dans certains cas dits exceptionnels, on pourrait embaucher quelqu'un qui ne parle pas français, mais sous la promesse qu'il suive un programme de francisation. Mais là, je me pose la question, comme tant d'autres, combien y a-t-il d'exceptions à ce point-là?
Et combien dure la période raisonnable pour l'apprendre?
Ah oui, c'est ça l'affaire. Parce que si on a comme plusieurs mois, puis finalement, on doit même pas passer de test, mais là, on peut se poser des questions. Puis là, ce qui m'inquiète ici, c'est qu'on sait très bien que le centre-ville de Montréal est quand même très anglais. Très anglophone, bon. Et ça va pas du tout, la francisation n'avance pas, si on veut, une anglicisation du Grand Montréal. Et la partie francophone du centre-ville de Montréal, c'est Hydro-Québec, c'est le complexe des jardins, c'est l'UQAM, des institutions comme ça. Donc, si nos grandes institutions francophones commencent à s'angliciser, ou du moins à laisser une intrusion de l'anglophone, sans prendre au sérieux la question du français, de l'avenir du français au travail, mais là, je pense qu'il y a vraiment des questions à se poser. Puis peut-être, je crois que le gouvernement devrait faire une enquête sur ce qui se passe, notamment, non seulement sur l'espionnage, évidemment, mais sur l'utilisation du français au travail.
Il y a un côté où est-ce que, la vieille pub d'Hydro-Québec, si on est 12 012, bon, ben, c'est plus vraiment le bon chiffre, mais on pourrait presque pas croire que ça... C'est peut-être que c'est pour ça que ça prendrait une enquête, ne serait-ce pour que se confirmer qu'on est dans l'exception la plus rare plutôt que la norme, parce que, justement, à la genèse de la création d'Hydro-Québec, il y avait cette idée de créer une expertise de génie en français. Mm-hmm. Et ça a été une réussite assez exceptionnelle. Maintenant, c'est difficile d'imaginer qu'on se promène dans les corridors d'Hydro-Québec à grands coups dans la langue de Shakespeare, là. Alors, peut-être que, ne serait-ce que pour s'enlever cette peur, l'enquête serait intéressante à ce niveau-là.
Je trouve ça bon que tu reviennes à l'origine de l'idée d'Hydro-Québec, puis on pourrait revenir à l'origine de l'idée, par exemple, de l'UQAM, de Desjardins, de grandes institutions francophones comme ça, parce qu'on remarque, quand on étudie leur histoire, que leur idée de départ, c'est de faire en sorte que les Canadiens français, nos ancêtres, aient plus de pouvoir, qu'ils se prennent en main et qu'ils peuvent faire une société digne de ce nom, en français, comme tel. Mais on dirait qu'au fil des décennies, l'idée s'est perdue au profit d'une pure idée d'utilité, d'efficacité, de production, de telle sorte qu'on dirait que de plus en plus, d'année en année, l'idée de faire nation, de servir le bien collectif québécois, on dirait que ça prend le bord de plus en plus, de telle sorte que je crois que, ben, on remarque par exemple dans les universités francophones, les programmes bilingues prennent de la place. Puis là, pourquoi je parle de ça? C'est parce que pour moi, c'est assez relié. Parce que par exemple, chez HEC Montréal, les programmes qui sont très populaires, c'est les programmes bilingues. Donc, autrement dit, ça veut dire qu'on laisse
place... Oui, il y a un programme trilingue aussi, je pense.
Ça se peut, ça se peut. Mais on voit que l'anglais fait de plus en plus son intrusion, et l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que si on en va dans le centre-ville anglophone, dans les grandes nations anglophones, je ne crois pas que quelqu'un qui parle uniquement français ou qui ne parle pas anglais pour être embauché sous la promesse qu'il va faire un programme d'anglicisation. Je suis vraiment pas certain.
Non, mais d'obliger les gens à parler anglais, là-dessus, l'anglais a une propension civilisatrice beaucoup plus grande, ou plutôt procélisatrice encore plus grande. Parlons, changeons de frontières. On va se diriger un grand bond à l'est, comme dirait Mao. En gros, le missile tombé en Pologne. Mm-hmm. Et là, il y a eu plusieurs types de réactions et il y avait, surtout du côté ukrainien d'ailleurs, ce qui était surprenant, presque un appel à l'engagement, là. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui envoie des étincelles autour de la poudrière et on était heureux de ça. Il y avait presque des échos de ceux qui ont vu le film Doctor Strangelove, là. De va-t'en-guerre. Et là, tu veux nous parler des vertus de la prudence et je suis assez d'accord. Qui as-tu vu mettre de l'avant ce genre de vertus et pourquoi ces vertus-là sont importantes dans le contexte actuel?
Mais j'aime beaucoup ton expression, les étincelles autour. Parce que ce qui se passe en Ukraine, c'est extrêmement important. On sait que l'emballement est possible. Puis ce serait extrêmement grave. Puis là, ce qu'on a constaté, quand il y a eu le missile, mais sur le coup, évidemment, on n'a pas beaucoup d'informations. Puis on sait que c'est un village qui est très limitrophe à la frontière ukrainienne. Puis là, tout de suite, on voit, par exemple, sur les réseaux sociaux, des mots-clics comme World War III. Puis là, on s'emballe pour dire on va vers la Troisième Guerre mondiale. Puis là, on a vu Zelensky dire bon, ben, c'est la preuve que tout l'OTAN doit embarquer. Puis il y en avait qui, j'en avais vu une ukrainienne tweeter article 5 pour dire article 5 de l'OTAN qui veut dire tous les pays de l'OTAN, une fois qu'il y en a un qui est attaqué, tous les pays doivent s'engager pour la guerre. Donc, autrement dit, c'est comme si du côté ukrainien, c'est comme si chez les dirigeants, chez ceux qui mènent la guerre, on est dans l'idée qu'il faudrait que le monde entier embarque dans cette guerre-là. Mais je crois pas, de un, que ça servirait tant que ça l'Ukraine, parce que là, ce serait le monde entier qui embarquerait là-dedans. Donc là, les Ukrainiens n'auraient plus seulement la Russie comme ennemi, mais d'autres grandes puissances. Donc, je pense pas que ça les aiderait tant que ça.
Et tu sais, Philippe, il y avait... Biden disait... Il y a une chose de pire que de devoir faire une guerre obligée, c'est de devoir faire une guerre accidentelle. Il faut bien choisir son moment. Et j'ai fait récemment une conférence qui mettait un parallèle intéressant entre la guerre entre la Russie et l'Ukraine et la crise des missiles de Cuba. Mmh. Et on oublie à quel point Kennedy était obsédé par cette idée d'éviter le jeu de domino qui, on sait très bien où est-ce qu'il va finir. C'est le bouton nucléaire. Mmh. Et même de laisser aller, par exemple, les Russes à l'époque... avait fait tomber un avion américain et Kennedy avait joué le temps et avait essayé de ne pas prendre ce moment-là pour justifier un embrasement de la chose pour que on soit capable de trouver d'autres solutions. Et parce qu'effectivement, la Pologne et avec l'OTAN, c'est la clause mousquetaire, un pour tous pour un. Et il n'y a pas juste une puissance nucléaire contre une autre, c'est une puissance nucléaire contre trois. Et puis là, ben, Richard Desjardins dirait, ben, au lieu de nous tuer 10 fois, ils nous tueront 100 fois, mais dans les deux cas, t'es mort. Alors, là-dessus, la vertu est une... La patience est notre vertu qui doit nous guider.
Ben, je pense que oui, quand même, parce que là, c'est extrêmement important, puis on sait pas très bien qu'est-ce qui se passe. Puis je trouve que dans le conflit ukrainien, ben, moi, je trouve ça extrêmement important qu'on appuie l'Ukraine à 100%. C'est normal qu'on envoie un appui financier, de l'équipement militaire. Mais de là envoyer nos hommes, là, on change complètement de registre. Puis il faut comprendre que ça peut être extrêmement grave. L'emballement, tu dis, comme justement le jeu de domino, il faut l'éviter à tout prix parce que avec les innovations technologiques qu'on a aujourd'hui, l'armement nucléaire, c'est plus simplement des guerres du 19e siècle ou d'autres fois où il y a un seul tir puis après il faut recharger pendant 10 minutes. T'sais, de nos jours, c'est extrêmement destructeur les innovations qu'on a militaires puis on peut pas se permettre de faire absolument n'importe quoi. Plus qu'on a constaté dans les journaux, dans les jours qui ont suivi de toute façon, c'est que le missile n'est peut-être pas de provenance russe ou on sait pas très bien qu'est-ce qui se passe. Peut-être que c'est une erreur, que c'est un missile de défense.
Peut-être un contre-missile ukrainien, mais...
C'est pas très bien.
Ça va être intéressant de voir la suite, mais là-dessus, il faut peut-être célébrer le fait qu'en anglais, on dirait « cooler heads prevail », c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont dit « prenons le temps ». Prenons le temps d'avoir les bonnes informations. Et c'est quoi la voie de sortie, s'il en est une, parce que rien n'est plus facile que de commencer une guerre. C'est de l'arrêter. Et là-dessus, il y en a un qui partagerait la chose, c'est Vladimir Poutine qui doit se dire « peut-être que j'aurais dû encore mieux calculer ». Et comme tu le dis, Philippe Lorange, la patience est une vertu que M. Poutine aurait dû apprendre. Oui, Philippe Lorange, notre chroniqueur à la vie nationale, merci beaucoup.
Merci, bonne journée.
Découvrez le nouveau café érable Pacan de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Grand vulgarisateur, Guillaume Lavoie analyse le monde dans tous ses états. Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio.
Une radio pas comme les autres.
Marie Montpetit, bonjour.
Allô, Guillaume Lavoie.
Bon, Marie, ça négocie fort à Québec, à savoir, bon, mais maintenant, l'Assemblée nationale va fonctionner comment? Qui va se partager le pactole? Parce que le statut au Parlement, ça se traduit en temps de parole, en attaché, en budget de fonctionnement. Et là, c'est pas clair s'il y a pas... Probablement que le Parti québécois doit trouver la journée difficile, là.
Ben écoute, là, c'est comme le calendrier de l'Avent qui commence, OK, pour les freaks de politique comme nous, là. On est à J-12 de la rentrée parlementaire. On va pouvoir se mettre un petit X tous les jours. Donc, la période de questions va recommencer. Donc, il commence à manquer de temps. Et là, c'est les négociations, là. Tu te rappelles, il y a des négociations depuis quelques semaines déjà qui sont recommencées parce que pour être reconnu comme un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, il faut avoir 12 députés ou avoir récolté 20% des voix. Et ben écoute, donc ça coince comme tu le sais. Et le PQ est vraiment pas content, c'est ce qu'ils nous ont dit ce matin. On a vu entre autres Joël Arsenault, Pascal Bérubé qui est sorti aussi sur les médias sociaux, sont pas contents de ce qu'il leur est offert. Puis là, ben ils ont décidé de porter cette négociation-là sur la place publique, alors qu'il avait été quand même entendu de façon tacite que les négociations se ferait entre eux à porte close et qu'on prendrait le temps de discuter.
Mais là...
Et là, je pense pas que c'est une stratégie... tu sais, j'ai commencé en disant ça avant de voir ce qu'il leur est proposé puis ce qu'ils dénoncent, mais je pense pas que c'est une stratégie qui est très payante. Tu me diras probablement qu'ils ont rien à perdre parce qu'effectivement, c'est dans 12 jours, ils sont juste 3, puis là, ben rendu là, ils vont peut-être essayer de mousser. Puis je pense que c'est ça l'idée, là, de mousser une certaine... d'opinion publique qui se soulèverait pour soutenir son parti au niveau du pourcentage de vote, parce qu'effectivement, au niveau du pourcentage de vote, ils ont fait aussi bien, sinon mieux, que le Parti libéral, aussi bien Québec solidaire. Donc, eux, ils visent vraiment en disant, ben écoutez, nous, on a eu le même pourcentage de vote, on devrait à tout moins avoir quelque chose de plus représentatif
Marie,
que ce qui nous est offert.
La finalité de cet argument-là, puis à un moment donné, il faut se poser la question. L'Assemblée nationale, ce n'est pas la représentation des pourcentages de vote. C'est la représentation des parlementaires. Et là, on compte littéralement les nombres de sièges. Et à ce jeu-là, le Parti québécois compte pas mal perdant. Ben, grande question. Habituellement, ce genre de négo-là, il y a deux approches. D'un côté, on peut se dire, voici combien d'argent il y a. Puis là, ben, c'est de séparer la tarte plus ou moins également. Ou sinon, on se dit, ben non, je vais grossir la tarte pour que, par exemple, le Parti québécois ait un attaché de plus, ou un personnel de plus, ou un 100 000 de plus pour le budget de recherche. Est-ce qu'il y a une piste d'atterrissage à tout ça? J'imagine que le gouvernement lui s'en lave assez les mains. Peut-être qu'il aurait avantage à diviser les oppositions, donc à renforcer le Parti québécois. Comment tu les imagines tout ça là, là-dedans?
Ben, écoutez, il y a deux grands enjeux hein, dans la négociation présentement sur la table. Il y a l'enjeu, tu le nommes bien, il y a l'enjeu monétaire qui est de savoir combien un groupe parlementaire va avoir d'argent pour fonctionner, c'est-à-dire combien ils vont avoir d'argent pour, entre autres, engager du personnel, avoir une équipe de recherche. Tu sais, évidemment, quand on se lève tous les matins à la période de questions, on fait pas ça seul. On a un recherchiste qui nous accompagne, qui fait la revue de presse, qui nous aide dans les stratégies. Il y a toute une équipe. Si on a un leader, ça veut dire qu'on a un bureau du leader. On va orienter toutes les stratégies aussi de la journée, de la semaine.
Puis Marie,
c'est sûr que ça a un impact de part tout ça.
Mentionnons-le parce que je veux qu'on même l'idée que certaines personnes pourraient se faire de, bon, ils veulent plus d'argent pour s'enrichir ou pour avoir des privilèges. Être parlementaire, pour être un bon parlementaire, ça prend de l'aide. Ça prend des gens. Tu peux pas poser une question, ou on présume, tu veux poser une question sur laquelle tu as fait tes recherches, tu as travaillé. Bon, bien, une opposition affaiblie, ou plutôt mise en famine, bien, ça fait une opposition moins forte, et donc un parlement moins fort.
Oui et non. Là, je te dirais, il y a deux façons de voir ça aussi parce que, tu sais, moi, je suis passée par là comme députée indépendante. Quand tu es députée indépendante, je veux dire, tu t'organises, là. Je veux dire, c'est ça ta job dans la vie, de poser des questions puis d'être efficace et tout. Là, tu me dis, c'est ça, c'est que la ligne est vraiment mince dans leur cas parce que, comme tu dis, l'approche. Bon, si on y va sur une approche historique, ben oui, le Parti québécois, tu sais, c'est des décennies, ça a été un grand parti, mais là, ils sont juste trois. Je veux dire, c'est ça la réalité. Donc, il faut trouver une piste d'atterrissage. Là, je regardais justement à la dernière législature, ils avaient un montant de 1,3 million pour fonctionner. On s'entend que c'est pas dans les poches des députés, c'est vraiment pour se monter une équipe, avoir du personnel. Là, ce qui leur est proposé, c'est moins d'un demi-million, c'est moins de 500 000 $. Donc là, je veux dire, ça reste quand même une masse salariale, on s'entend, très, très raisonnable pour trois députés, à mon avis, là. Mais le PQ voudrait 800 000. Là, ils ont mis ça sur la place publique en disant, nous, à 800 000, on est prêt à négocier. Donc, c'est pour ça que je dis, ils négocient sur la place publique. Mais l'enjeu aussi très important au-delà de l'aspect monétaire, c'est ta visibilité. Tu sais, je veux dire, pour exister, là, un parti politique, faut qu'il existe. Faut qu'il soit vu, faut qu'il soit visible.
Mais ça, c'est du temps parlementaire.
Ça passe entre autres par la période de questions. Et je pense que c'est beaucoup là-dessus ce matin que le Parti québécois est sorti en disant justement que ce qui leur serait accordé en ce moment, c'est seulement 5 % des questions en chambre. Je te donne une petite idée pour voir. Déjà, ce que ça veut dire que le PQ n'a pas une question par période de questions. C'est pas à toutes les périodes de questions que le chef parlementaire pourrait se lever. Moi, j'ai fait un petit calcul mathématique ce matin. Normalement, d'ici la fin du mois de juin, là, si on prend toute la session va recommencer pour à peine deux semaines, mais mettons, si on prend toute l'année jusqu'à la fin du mois de juin, il y aurait 55 périodes de questions. Ce qui veut dire à peu près 500 questions qui vont être posées au gouvernement. C'est à peu près ça. Là, il y a, tu sais, en moyenne, il y a à peu près 9 questions qui sont posées, à moins que ce soit la foire d'empoigne, puis que là, il y a des appels au règlement, puis que là, le président intervient, puis là, on perd du temps de parole,
Marie,
puis
on parle à 9e. Faut le dire, hein, c'est 500 questions, ça veut pas dire 500 réponses. C'est la période des questions.
Je parle juste de questions, t'as tout à fait raison. Mais là, ça veut dire que selon le calcul qui est proposé, ça veut dire que le PQ en aurait 25 sur l'année complète. C'est vraiment pas beaucoup, là. Donc, c'est pour ça qu'on est à moins d'une question par période de questions. C'est pas beaucoup, mais une fois qu'on a dit ça, je pense que le fait de sortir sur la place publique, c'est sûr que c'est pas apprécié par les autres partis. Il reste encore 12 jours de négociation. Et je te rappelle aussi que les députés du Parti québécois ont toujours pas prêté serment au roi.
Oui, ceux de QS non plus.
Et donc, ça techniquement, va être... ils peuvent pas siéger le 29 novembre. Donc là, écoute, sont partout, mais je suis pas sûr qu'ils mettent leurs énergies à la bonne place.
Mais là-dessus, puis j'imagine Québec solidaire qui a probablement décidé de jouer l'horloge parce qu'il se dit, il y a une élection partielle à l'intérieur des 6 prochains mois. C'est probablement nous qui, en tout cas, sommes présentement les mieux positionnés pour la gagner. Et ça ferait passer QS de 11 à 12 députés. Et là, ben, il resterait que le Parti québécois qui ne se qualifie pas selon les règles que l'Assemblée s'était données. En passant, l'Assemblée s'était donnée pour accommoder l'arrivée du Parti québécois en 1970 ou 73. Alors, ça va être intéressant de voir aller la chose. Dis-moi, changeons de sujet. Il y a l'enquête du protecteur du citoyen. Et là... Ça me faisait rire. C'est le traitement de faveur par des organismes proches du politique. Bon, c'est pas exactement nouveau, c'est pas plus acceptable qu'avant, mais là, la grande question, c'est où? Hein, c'est quel ministère? Quel ministre? Qui est proche de qui? Bon, on se doute peut-être de la réponse, mais comment tu nous présentes ça?
Ben écoute, moi je trouve ça scandaleux ce qu'on apprend ce matin. C'est grave parce que ce dont il est question dans le rapport du protecteur du citoyen, c'est de manquements graves, de manquements. Donc ce qu'il mentionne, c'est que le cabinet d'un ministre, est-ce que c'est le ministre ou la ministre elle-même, est-ce que c'est ses employés? On n'a pas de détails, mais de toute façon, c'est pas gros un cabinet, là, je vais te dire, pour avoir été ministre, pour avoir eu des employés. Ça tient sur un grand bureau.
Donne-nous un ordre de grandeur, là. Un cabinet, il y a combien de gens? Évidemment, il y a des grands cabinets, ou plutôt des gros cabinets parce qu'il y a des gros ministères, mettons la santé. Puis à l'autre bout, imaginons les relations internationales. Donne-nous un ordre de grandeur. C'est combien de gens, là, quand on dit le ministre ou la ministre et son entourage, son cabinet, c'est combien de monde, ça?
Ben écoute, dans le cabinet, si on exclut le bureau de circonscription, ça va être de 10 à 20 personnes. Tu sais, c'est pas le ministre est au courant de tout, puis si le ministre est pas au courant, il y a un enjeu, mais son directeur de cabinet est au courant.
Bon, parce que un
directeur adjoint, un attaché de presse, puis 4, 5, 6, 8 attachés politiques, dépendamment des dossiers. Non, tout le monde connaît tout le monde se voit tous les jours à partir de la revue de presse à 6 heures le matin jusqu'à la fin de la journée quand le ministre revient de la période de questions, puis là, il débriefe, puis tu sais, on se prépare pour le lendemain. Tout le monde connaît tout le monde et tout ce qui se fait dans un bureau est su, là. Ça moi, on ne peut pas avaler le contrat.
Marie, ce que tu nous dis, c'est la fameuse excuse de... J'étais pas au courant, je le savais pas. C'est des gens dans mon bureau qui ont fait ça sans m'en parler. Peu crédible.
On sait pas à ce stade-ci. Non, ça, c'est, si quand on saura, parce que là, l'enjeu, c'est de savoir qui c'est. Donc, juste pour revenir au début de l'histoire, là, ce que le rapport dit, dans le fond, c'est qu'il y a 60 millions, un budget de 60 millions, qui normalement est un programme normé, dont le ministère décide comment ils veulent l'attribuer. Il y aurait eu des interventions du cabinet politique, ce qui ne se fait pas. Le ministre a un budget, chaque ministre a un budget discrétionnaire, dont il peut disposer comme il veut, mais tu as ce qu'on appelle les programmes normés, les subventions, et ça, c'est administratif, c'est normé. Et là, il y a des recommandations négatives qui auraient été faites pour certains projets par le ministère en question, et le cabinet aurait quand même donné son aval, serait passé par-dessus ces recommandations-là, aurait octroyé des fonds à des organismes qui n'avaient même pas fait de demande formelle et qui n'avaient pas de projet. Oui, c'est grave, et c'est des gens qui étaient dans l'entourage de ces autorités-là, qui avaient des liens avec. Et là, en ce moment, l'enjeu, ça c'est un premier enjeu, mais un deuxième enjeu, c'est que le protecteur du citoyen ne révèle pas ni qui est le ministre, ni de quel ministère on parle. Et là, moi, je pense qu'au niveau, de la transparence, pour pas alimenter non plus le cynisme de la population, ça ne peut pas rester comme ça. Puis je comprends qu'il y a un enjeu de protection des lanceurs d'alerte, mais on peut pas se retrouver avec présentement un membre du gouvernement Est-ce que cette personne-là est encore ministre? Est-ce qu'elle n'est pas ministre? Et là, on a vu que le Parti québécois et le Parti libéral du Québec demandent justement au premier ministre de révéler qui est cette personne et de la sortir à tout le moins de son conseil des ministres ou de la renvoyer, en tout cas, ou d'agir. Mais je pense que par transparence pour la population, on doit savoir exactement où ça s'est passé et de quoi il en retourne, parce qu'on a très peu de détails à l'heure actuelle.
Oui, surtout, là, il y a des choses, parce qu'il peut toujours y avoir un ministre qui est tu as été ministre, qui est en accord ou en désaccord. Hein, le ministère fait des recommandations, mais c'est le ministre qui décide, qui tranche. Et en ça, c'est plutôt le côté normal. Mais octroyer des fonds à des organismes qui n'ont même pas fait de demande, ou littéralement... aller contraire aux recommandations du ministère, mais parce qu'il y a une espèce d'accointance ou la fameuse excuse « je le connais », j'ai envie de dire, bon, Dieu seul sait qui est le ministre ou la ministre ou le ministère en cause, le diable sans doute, la pression va monter, on va finir par le savoir, là.
Ben, je crois que oui, puis tu sais, dans le rapport, on parle de manquement grave, de manquement répété, de traitement de faveur. Donc, tu sais, ça peut pas se faire non plus sans conséquences. On a une responsabilité quand on est ministre. On prête serment. On en a parlé beaucoup du serment. On a un code d'éthique. Ça ne peut pas être fait sans conséquences. Et comme je dis, sinon, ça continue d'alimenter le cynisme auprès de la population. De toute façon, les élus, ils s'en mettent plein les poches. Ils font ce qu'ils veulent. Ils donnent ça à leurs petits amis. Puis il y a pas de conséquences à la fin de la journée. Puis ça peut pas. Je veux dire, ça dessert tout le monde en politique.
Est-ce qu'il y a des recours, à part poser des questions en chambre, faire de la pression politique en gardant la chose vivante dans l'actualité, est-ce que quelqu'un a des recours quelque part, un pouvoir d'initiative? Est-ce que le VGE, le vérificateur général
la commissaire
du
à l'éthique,
Québec,
je crois.
Ou la commissaire à l'éthique, a le pouvoir, ouais. Ce qu'on appelle d'initiative, de dire « j'entends des choses, je fais enquête ».
Ben écoute, je serais pas surprise à l'heure actuelle que les partis de l'opposition sollicitent la commissaire à l'éthique qui a été très active. On l'a vu hein, dans le dernier mandat, justement, il y a eu plusieurs blâmes à l'éthique qui ont été portés sur des ministres. Elle est très rigoureuse sur ces questions-là. Je ne serais pas surprise qu'il y ait des rencontres qui se fassent aujourd'hui ou demain pour soulever certaines hypothèses, par exemple, ou tu sais tout se sait hein, généralement sur la colline.
Québec,
c'est juste une question
c'est
de
bien...
temps avant que l'information.
Ouais. Le Québec, c'est un
Radio
petit
colline.
Monde.
On appelle ça Radio Colline.
C'est le Québec, c'est un petit monde et la colline parlementaire, c'est un petit village. Là. Je le dis pas de manière péjorative, mais il n'y a pas de secret. Hein. La blague à Québec, c'est si t'es deux dans la pièce, ce n'est plus un secret. Ou, comme disait Marie, mon vieux prof de négo, Marie disait, vous savez ce qu'est-ce qu'un secret? Puis là, moi, j'étudie à l'Université Laval, donc à Québec. Il dit, c'est quelque chose que l'on dit à une seule personne à la fois. Et ça ressemble
à
un peu
exactement.
À ce qu'on va vivre à Québec.
Mais chose certaine, ça pourrait être une chaise un peu brûlante pour le premier ministre. Je le rappelle, la période de questions, la rentrée parlementaire se fait dans 12 jours. C'est pas très long. Et dépendamment de l'ampleur que ce dossier-là va prendre, ça veut dire que le premier ministre du Québec, François Legault, pourrait se retrouver avec un ministre dans l'eau chaude, avec une situation probablement pas très agréable à gérer en plein début de mandat, avec cette période de questions sur laquelle il pourrait être questionné là-dessus.
Mais Marie, tu sais, 12 jours, c'est un petit morceau d'éternité. Il y a plein d'autres scandales qui peuvent arriver d'ici là, ou d'autres enjeux qui occuperont l'actualité. On va suivre ça ensemble. Marie Montpetit, merci beaucoup.
À demain.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Guillaume Lavoie, un talent de conteur indéniable. Avec lui, l'actualité sonne comme de la poésie.
Sous les intempéries de la nouvelle, frissonne le monde et le soleil alimente le chant des faits divers.
Guillaume Lavoie.
Le le Québec a été évidemment construit par une société essentiellement catholique ou très religieuse, et ça s'est porté dans la construction de nombreuses grandes œuvres qui sont les églises, les cathédrales, les basiliques, les chapelles à travers du territoire. Aujourd'hui, ces bâtiments-là existent toujours, mais souvent abandonnés ou sinon en très mauvais état, et on se demande comment est-ce qu'on peut conserver leur vocation ou sinon faire quelque chose, les transformer sans perdre l'essentiel de ce que c'était. Et c'était pas nécessairement le côté religieux qui était au cœur de cette essence. On pourrait faire le portrait un peu de cet enjeu qui est présent dans tout, littéralement dans toutes les paroisses, mais au cœur des villes grandes et petites à travers le Québec. Allons rejoindre Julie Favreau, avocate et conseillère stratégique en immobilier. Bonjour, Madame Favreau.
Bonjour, Guillaume.
Merci d'être avec nous. Parlez-nous donc de la préservation du patrimoine religieux. Et là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va toucher à la réalité très proche de gens qui vivent tant à Montréal que dans des coins de l'Est du Québec. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Mais écoutez, vous dites que c'est un problème à l'échelle du Québec et c'est vrai, on a des églises dans tous nos villages. C'est littéralement là le coin de rue en fait des noyaux villageois et surtout nos affaires commerciales aussi dans les villes, dans les municipalités là d'un peu plus grande envergure. C'est un problème en fait qui touche bien sûr l'infrastructure, le bâtiment en tant que tel qui souvent est en mauvais état, mais aussi toute la vie communautaire qui s'y rapporte. La fondation là des centres Trillium en Ontario, a fait une étude là il y a quelques années de ça, il y a 2 ans, et elle chiffrait là à la fermeture des églises au niveau de l'Ontario un nombre incalculable de pieds carrés. On parlait là, de centaines de milliers de pieds carrés qui étaient mis traditionnellement à la disposition de la communauté, des fois là pour des scènes là ou carrément gratuitement. Et là, ben c'est tout le filet social autour de ces espaces-là qui est en train de s'effriter quand on perd une église.
Et là, Mme Favreau, vous touchez à quelque chose qui est très important et peut-être dont on parle pas assez ou pas correctement, c'est-à-dire qu'on fait souvent l'adéquation entre église et sacré. C'est pas en soi complètement faux, mais le sacré, c'est pas la brique et le béton, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Mais même dans les temps les plus pratiquants, au summum des filles de Caleb, l'église n'est pas qu'un lieu pour célébrer. Pour une célébration religieuse, l'église, c'était le lieu, soit dans l'église elle-même, où c'était la kermesse, ou en avant, ou le fameux sous-sol de l'église, où on faisait des réceptions, les scouts, et je ne sais quel autre rassemblement communautaire. Donc, ce sont essentiellement des bâtiments vitaux ou essentiels à la vie de la communauté, au-delà du religieux. Et ce que vous nous dites, c'est si on perd ces bâtiments-là, bien, on perd tout le volet, ce lien très fort, communautaire, pour les gens qui habitent autour.
Complètement. Puis on parle du pied carré, mais on parle aussi un symbole. C'est là, sur le parvis de l'église, là, c'est là que s'est construit le Québec. Bien sûr, là, il y a toutes sortes de mouvements à l'intérieur même des congrégations religieuses sur qu'est-ce qui est sacré, qu'est-ce qui doit être préservé, qu'est-ce qui n'est pas important. Ça, on va le laisser aux experts là, du milieu ecclésiastique et apostolique. Mais la réalité, c'est que les liens sociaux qui ont été construits, vous l'avez nommé, le sous-sol, les presbytères maintenant qui servent à accueillir toutes sortes de bureaux d'organismes communautaires ou encore du logement social, eh bien, ils sont encore là au cœur de nos communautés. Je pense qu'il devient essentiel, en fait, qu'un jour, l'État se mêle de la situation, là. C'est pas en ignorant un problème qu'on va le régler.
Mais là, j'ai l'impression que vous mettez le doigt sur un fil un peu électrifié. Cette fameuse séparation de l'Église et de l'État est au cœur de la vie politique moderne. Et là, je parle pas là, de rejeter le bon Dieu. Je parle que l'autorité, elle est laïque. Ces bâtiments-là, souvent, sont propriétés de conseils de fabrique ou de communautés religieuses. Comment est-ce qu'on fait pour, si vous voulez, régler la quadrature du cercle? Comment est-ce qu'on fait pour être capable d'associer un investissement public pour une mission qui serait tout à fait d'ordre public ou communautaire ou social, malgré qu'il y ait ici des joueurs ecclésiastiques en jeu, là?
Oui, tout à fait. Ben, c'est sûr qu'il y a une partie de la réponse qui passe par le droit de propriété. En ce moment, la propriété des immeubles est principalement détenue par des organisations qui sont incorporées sous la loi des corporations religieuses. Et ça, l'État est allergique. On a fermé là, les canaux de discussion avec l'Église il y a plusieurs années de ça. Le problème, c'est que les locataires et les usagers de ces espaces-là, eux, font partie de la vie communautaire. Ce sont des OBNL, ce sont des associations, et c'est par eux, en fait, que je pense qu'on a vraiment des canaux de discussion qui peuvent se réouvrir entre le bâtiment là et l'infrastructure. Et ben tous les programmes de subvention, les programmes d'aide au développement économique, au soutien à la vie communautaire, à la vie sociale qui existent et dont on a besoin au Québec, en fait.
Julie Favreau, laissez-moi essayer une idée peut-être folle ou dangereuse, ou à tout le moins vous me le direz, refermez cette porte immédiatement, mais imaginons que, et là je vais mettre véritablement mon chapeau d'économie collaborative, c'est-à-dire que l'utilisation et la propriété peuvent être scindées. Est-ce qu'une église pourrait, et là, je parle du bâtiment, là, de l'église avec un petit E, être mise à la disposition du conseil de fabrique, de la communauté, exemple catholique, pour des célébrations à des moments X, mais appartenir à un OSBL qui verrait, utiliserait le potentiel du bâtiment, que ce soit l'église, le sous-sol, le presbytère, pour des fins socio-communautaires.
Mais écoute, Guillaume, c'est pas du tout hérétique ce que tu dis. Mieux que ça, on l'a déjà fait au Québec. Dans les années 50, quand on s'est mis à bâtir des églises en fou et quand les banlieues se sont déployées, on faisait la messe à l'intérieur des gymnases, des écoles. Donc, c'est déjà quelque chose qui s'est fait. C'est peut-être une idée qu'on devrait ressortir des Boulamites. Certaines paroisses le font déjà. Je pense à la communauté Saint-Jacques, qui est une communauté anglicane située sur Sainte-Catherine.
En plein cœur de Montréal, là, c'est cette. Exactement. Et là, expliquez-nous, parce que tout le monde n'est pas familier avec cet exemple précis. Expliquez-nous donc, c'est une église anglicane en plein cœur de la ville, la rue Sainte-Catherine. Parlez-nous de ce qu'ils font à ce moment-là.
Écoute, alors eux, ils ont renouvelé entièrement l'utilisation de l'église à travers un partenariat avec le cirque, le monastère. Alors du lundi au samedi, c'est la communauté artistique qui investit l'espace, des articles de cirque qui se pratiquent, qui font des spectacles. L'espace est aussi accessible à des cuisines communautaires.
Donc, littéralement dans l'église, là.
Ah oui, là, la première chose qu'ils ont fait alors, c'est enlever les bancs de l'église, s'installer de la technique, en faire vraiment une salle multi-usage, multidimensionnelle, et ils utilisent toutes les parties de l'église, là, que ce soit le sous-sol, que ce soit la nef principale, et ben le dimanche, c'est la communauté paroissiale qui revient, qui réinvestit son espace et qui tient ses célébrations.
Donc, plutôt que d'avoir des espaces qui sont, que j'appellerais, unifonctionnels, évidemment que, bon, on sait, là, même dans une société très, très pratiquante, il n'y avait pas des messes 24 heures sur 24, même dans un Québec d'antan. Le bâtiment sert de lieu de célébration religieuse au moment des célébrations religieuses, et à d'autres moments, on utilise cette capacité excédentaire comme un vecteur d'enracinement puis de développement socio-culturel. C'est un peu ça le modèle.
Complètement. C'est ce qu'on fait aussi au Jésus, qui est une salle de spectacle bien connue, bien, à l'étage, donc dans la nef. Là, il y a des messes tous les jours là, qui ont lieu, mais le soir, ça devient un espace musical là, bien connu puis apprécié des amateurs. Là.
Est-ce que ces exemples-là dont vous nous parlez, puis c'est intéressant qu'ils soient enracinés dans le passé, parce que des fois, on est un peu gouverné par notre enracinement dans le passé, puis en le relisant mieux, ça nous ouvre des possibilités. Vous avez parlé de Saint-Jacques, vous avez parlé du Jésus. Est-ce qu'il y a d'autres endroits qui pourraient nous inspirer? Et, une dernière question, est-ce qu'on a besoin de repenser nos lois pour rendre ça possible autrement que par caractère d'exception?
Ben, je pense en tout cas qu'on a besoin de repenser notre discussion avec les propriétaires de ces lieux-là, avec les communautés religieuses, avec les paroisses. Le dialogue doit être établi et les solutions doivent être communes. Ça, c'est un impératif à trouver des solutions. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres lieux qui pourraient nous servir d'inspiration? Au Québec, il y a certaines églises qui se sont renouvelées, non pas vers la, grâce au domaine de la culture, mais grâce à du développement économique. Il y a une usine de fromage qui a investi une église dans le centre du Québec. Il y a des espaces de production, là, le BIM en esprit, pour pas le nommer. Donc, il y a toutes sortes de façons de réinvestir ces espaces-là, des bibliothèques municipales qui s'y implantent, etc. En termes de structure de gouvernance, ben ailleurs dans le monde, en France notamment, les églises sont propriétés des municipalités. C'est une autre façon là,
De voir la chose qu'on pourra en faire véritablement des bâtiments communautaires. Enfin, c'est ce que je retiens le plus de notre échange, c'est que les églises ont toujours eu une fonction d'enracinement communautaire, de développement socioculturel essentiel à la communauté, en plus de leur fonction religieuse. Et c'est peut-être là qu'il faut y revenir, encore là, peut-être qu'il faut penser l'avenir avec un retour vers le futur. Julie Favreau, avocate et conseillère stratégique en immobilier, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci, au plaisir.
Passionné d'histoire, il raconte l'information du monde d'hier à aujourd'hui, une page à la fois. Guillaume Lavoie. Cube Radio.
En direct à LCN.
Maintenant, le moment de retrouver Guillaume Lavoie dans les studios de Cube. Bonjour, Guillaume.
Bonjour, Marianne.
Ça aura pris quoi, plus d'une semaine, mais on sait maintenant que ce sont finalement les Républicains là, qui ont la majorité à la Chambre des représentants. Est-ce que tu t'attends à ce que ça joue dur?
Absolument. D'abord, la chose, elle est majeure. Hein. Prendre, que ce soit par une petite majorité ou une grande majorité, qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'un parti est majoritaire ou ce qu'on appelle souvent prendre le contrôle de la Chambre? Eh bien, en premier, c'est le contrôle de l'agenda et le contrôle, la présidence, par exemple, des divers comités. Et donc, qui maîtrise l'agenda maîtrise l'ensemble du reste. Et dans la politique américaine, tous les projets de loi à incidence financière doivent émerger de la Chambre des représentants. Et l'accord de la Chambre des représentants est obligé pour tout ce qui devra se passer par la suite. Alors, négocier le budget, relever ou pas le plafond de la dette, ça va être majeur. Et là, il y a des républicains qui voudront bien sûr, on le comprend, gagner des points au détriment de Joe Biden en s'opposant à son agenda ou à ses demandes. Et il va y avoir donc des défis très importants pour les démocrates et M. Biden, mais il y aura aussi des défis internes très importants pour les républicains, parce que les républicains, c'est pas exactement une colonne à la romaine, en bon ordre de marche, où tout le monde dit exactement la même chose et avance au même pas cadencé. Il y a plusieurs groupes à l'intérieur du groupe républicain qui veulent pas nécessairement tous la même chose. Il y a, et vous allez entendre ce mot-là de plus en plus, le Freedom Caucus. Ce sont des élus républicains qui ont une vue passablement plus campée à droite que d'autres. Et ils vont vouloir tantôt forcer le jeu de leur côté ou l'autre. Et là, le leader des républicains, celui qui devra qui deviendra ce qu'on appelle le speaker, lui, il aura l'énorme défi de s'assurer que ses votes passent parce que les lignes de parti, la ligne du parti est beaucoup plus élastique aux États-Unis. Alors, ça arrive, par exemple, que sur certains projets, les républicains vont avoir des votes qui vont leur manquer. Quelqu'un est bizarrement absent ou décide de voter avec les démocrates. Alors là, M. McCarthy, on va le voir, vous savez, on dit un leader que personne ne suit, c'est juste un gars qui prend de marche. Alors est-ce que M. McCarthy sera capable d'abord de garder l'unité au sein du Parti républicain? Et c'est pas acquis, ça.
Intéressant. Parlons de Nancy Pelosi, on la voyait il y a quelques instants. Elle a fait le point sur son avenir politique, Guillaume.
Oui, alors c'était véritablement une géante de la politique américaine. Mm-hmm. Elle était une élue, elle est toujours d'ailleurs une élue, une représentante comme les autres, mais c'était la première des démocrates. Alors lorsque les démocrates étaient majoritaires en chambre, c'est elle qui avait ce poste incroyablement puissant de speaker qui négociait avec la Maison-Blanche ou avec le leader du Sénat. Et le speaker, peu importe qui est dans cette chaise-là, c'est le deuxième en ordre pour remplacer le président. Si le président devait quitter ou mourir, c'est le vice-président qui prend la place. Celui d'après, c'est le speaker. Donc, c'est très important. Et Mme Pelosi, elle a été la sixième personne dans la grande histoire des États-Unis à occuper le siège de speaker le plus longtemps. Donc, c'est véritablement quelqu'un d'incroyablement puissant qui dit, ben moi, je vais pas me représenter pour, si vous voulez, le leadership, parce qu'il n'y a pas de chef dans les partis aux États-Unis, le leadership des démocrates pour le mandat qui vient. C'est pas moi qui vais le prendre. Quelqu'un d'autre devra le prendre pour moi. Alors, il va y avoir une espèce de course à l'intérieur des élus démocrates qui, parmi eux, sera... sera choisi pour être leur leader, qui deviendra le leader de la minorité à ce moment-là. Et mettez peut-être un petit 5 $ pour un élu de la région de New York qui s'appelle Jeffries. Ah. Et ça pourrait être lui, peut-être, qui va l'emporter. Et là, ben, il y aura une nouvelle génération de leaders démocrates qui sera de plus en plus présent dans le débat politique américain.
Intéressant tout ça. Il nous reste à peine quelques secondes, mais parle-nous de Donald Trump là, qui se mêle de ce qui se passe en Géorgie.
Oui, alors en Géorgie, il y a ce deuxième tour et le candidat républicain est un candidat sous standard, relativement mauvais. Et lui, Donald Trump, a décidé de s'en mêler. Il faut que je le fasse élire, mais dans les faits, il y a beaucoup de républicains qui se disent « peut-être qu'on ne le veut pas parmi nous pour les 6 prochaines années ». Alors, bizarrement, le résultat en Géorgie fera peut-être le jeu de ceux qui veulent pas Trump non plus, parce que si les candidats appuyés par Trump ne réussissent pas, ça reflète pas beaucoup positivement sur Trump lui-même.
Toujours intéressant tout ça. Merci beaucoup, Guillaume.
Au plaisir.
À demain. Au revoir.
C'est tout pour nous. Merci beaucoup d'avoir été à l'antenne. Guillaume Lavoie qui veut remercier Charlie Marchand et Marianne Bessette et qui vous dit au plaisir.
Cube Radio.